grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse, en direct ou en podcast, comme dit toujours Ali Rebéi. Pourquoi les bébés pleurent-ils? C'est la question que nous nous poserons aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer cette info il y a quelques jours sur Internet, l'histoire d'une Coréenne qui devait faire un vol Séoul-San Francisco avec son bébé de 4 mois et qui a offert à tous les passagers de l'avion un kit de survie contenant des bonbons, des bouchons d'oreilles et un mot d'excuse. Apparemment, son nourrisson n'aurait pas bronché pendant les 10 heures du vol. Fin de la belle histoire. Là, c'est le moment où je vous raconte un souvenir personnel un peu cuisant. J'ai pris un TGV il y a longtemps avec ma fille âgée d'un mois. Un voyage au bout de l'enfer avec une gosse qui a hurlé non-stop jusqu'à l'arrivée. Les passagers me jetaient des regards de haine comme si j'avais pu faire autre chose que ce que je faisais déjà, c'est-à-dire la nourrir, la changer, la câliner avec amour et stressée comme une mauvaise mère impuissante que j'étais. Tout ça pour dire que les bébés pleurent. Un nourrisson bien portant peut pleurer plus de 2 heures par jour, parfois 3. Les bébés pleurent quand ils ont faim, quand ils ont sommeil, quand ils ont chaud, quand ils ont froid, quand ils s'ennuient. Et puis parfois ils pleurent pour pleurer. Comment s'y retrouver dans tous ces cris? Comment décoder ce langage, si c'en est un? Comment les aider dans ces premiers mois où tout est nouveau pour eux? Comment les supporter, parfois, sans devenir dingue ou sans pleurer soi-même? Quand faut-il s'inquiéter? Quand faut-il consulter? Pour en parler jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir la pédiatre Bernadette Lavollet, la psychologue Isabelle Filioza et la chercheuse Florence Levrero, qui sera avec nous en duplex de Saint-Etienne grâce aux moyens techniques de France Bleu. Nous espérons vos questions et vos témoignages, bien sûr, au 01 45 24 7000, sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse ou sur l'appli France Inter. Et puis, bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Marie.
Romancier et généraliste, vous nous racontez tous les lundis une médecine à visage humain dans la chronique Alors voilà, en duplex de Toulouse, grâce à France Bleu. Merci encore France Bleu. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Baptiste?
Aujourd'hui, je vais vous parler des bébés, puis de la rencontre qu'ils sont pour nous en tant que soignants à chaque fois qu'on les voit au cabinet médical.
Ah, génial, on a hâte, à tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Marie Sauvion.
Qu'est-ce qui fait pleurer les bébés? C'est le sujet de Grand Bien vous fasse jusqu'à 11h. Et ma première invitée s'appelle Bernadette Lavollet. Bonjour.
Bonjour Marie.
Pédiatre durant 40 ans, vous êtes aujourd'hui formatrice en accueil du nouveau-né. Et vous avez publié en 2018 un livre intitulé « Les vrais besoins de votre bébé » aux éditions Les Arènes, dans lequel vous décryptez notamment le ressenti du nouveau-né et tous les petits signes qu'il donne avant de s'époumonner. On y reviendra. À vos côtés, j'accueille Isabelle Filioza. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous et toutes.
Psychothérapeute et conférencière, vous avez fondé les ateliers Filioza où vous enseignez la parentalité positive. Autrice d'une vingtaine d'ouvrages, vous avez notamment signé « Au cœur des émotions de l'enfant », c'est dire si ça nous intéresse, paru récemment en poche chez Marabout. Et enfin avec nous depuis Saint-Etienne, ma troisième invitée, la femme invisible. Bonjour, Florence Levrero.
Bonjour tout le monde, je suis bien là.
Docteur en biologie comportementale, vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Saint-Etienne, où vous faites partie de l'équipe de neuroéthologie sensorielle. Alors là, en trois mots, il va falloir nous expliquer ce que c'est.
Oui, on a un laboratoire qui s'intéresse aux comportements animaux, on va dire, et on est spécialisé dans la bioacoustique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout ce qui est communication vocale, et on essaye de comprendre les informations qui sont contenues dans les cris. Alors, en majorité, on travaille chez les animaux, mais on s'est rendu compte qu'on savait pas grand-chose chez l'humain, dans tout ce qui est communication non-verbale, et on s'intéresse depuis quelques années donc aux pleurs des bébés.
Les bébés qui sont des petits mammifères, donc. Alors surtout, vous intervenez quand vous voulez. Pour parler des pleurs des bébés, je vous propose de commencer par le commencement, évidemment la naissance, qui a longtemps rimé avec pleurs en abondance, Bernadette Lavollet. On est presque surpris, vous écrivez aujourd'hui dans votre livre, quand on n'entend pas les bébés hurler en salle de naissance.
Oui, effectivement, après le premier pleur immédiat, les bébés maintenant, dans beaucoup de maternités sont posées immédiatement en peau à peau sur le ventre de leur maman et tout a changé depuis. C'est-à-dire qu'on considérait autrefois qu'un bébé qui pleure pendant une demi-heure, une heure après la naissance, c'est normal, qu'il faut s'y faire et que c'est comme ça. Et bien maintenant, on se rend compte qu'un bébé, dès qu'il est en peau à peau et sur le ventre de sa maman et qu'il retrouve le nid douillet qu'il a connu in utero, eh bien, nous permettons à ce bébé de s'installer d'une façon totalement différente dans cette nouvelle vie et de lui apporter d'emblée cette sécurité de base dont il a tant besoin immédiatement et qui va, je pense, être la première prévention des pleurs ultérieures et qu'on va rompre immédiatement ce cercle négatif qu'on avait instauré pendant des années et des années en faisant de nombreux gestes presque, j'allais dire, maltraitant au nouveau-né, en l'aspirant, l'habillant, le baignant, le mesurant, le pesant, et qui le faisait rentrer dans la vie d'une façon très stressante et qui instaurait les pleurs comme quelque chose de normal. Alors bien sûr, c'est normal de pleurer, mais on peut faire entrer le nouveau-né tout à fait différemment et instaurer un nouveau cycle que j'appellerais désir-plaisir plutôt que action-réaction et être en amont de ces pleurs aussi intenses chez les bébés et qui sont si douloureux pour les parents.
Isabelle Filioza, je vous vois hocher la tête avec un immense sourire. Je pense que tout ce qu'on vient de dire là sur la naissance vous comble.
Oui, tout à fait. C'est important d'arrêter de dire qu'il est normal qu'un bébé pleure. Même dans l'introduction de cette émission, vous avez dit qu'il était naturel qu'un bébé pleure plusieurs heures par jour. On a cette croyance-là et on a tellement cette croyance-là que du coup, quand le bébé pleure, bon, on trouve ça, bah, c'est normal, c'est son temps de pleurs. Bon, c'est un peu déstabilisant. On n'aime pas trop s'il y a du public autour qui nous regarde d'un drôle d'air. Mais ça n'est pas naturel qu'un bébé pleure.
C'est pourtant universel.
C'est universel, mais le cri, il dit quelque chose. C'est pas tout à fait universel. Il y a de nombreux pays dans lesquels les bébés pleurent nettement moins que chez nous. Chez nous, ils pleurent beaucoup parce que ils sont trop séparés de leur maman, parce que nous ne savons pas, nous avons perdu les habitudes de maternage proximal qui permettent à un enfant de se sentir satisfait. En fait, quand un bébé pleure, pensons que et un de ses besoins n'est pas satisfait. Alors, on dit pleure. Et quand on dit pleure, on pense un peu émotion, etc. On se dit, bon, il a besoin de se libérer. Non, non. En fait, ce sont pas vraiment des pleurs. Tout de suite, ce sont des cris.
Des cris.
L'enfant crie et il crie parce qu'il appelle. Il crie parce qu'il a besoin de quelque chose à l'intérieur. Reste à décoder. Et comme c'est pas simple de décoder, on se dit, oh, ben, c'est normal.
D'accord, alors pour la question suivante, je vous fais écouter un extrait de film qui va vous rappeler des souvenirs.
Viens voir ce qui est sur le palier.
Mais quoi ?
Mais viens voir, je te dis vite ! Ça pourrait être une surprise, c'est une surprise !
Mais tu vois, c'est un couffin avec un bébé dedans et une lettre dessus. Très cher Jacques, voici le fruit de nos amours, prends-en bien soin. Je pars pour 6 mois aux États-Unis, c'est une fille, elle s'appelle Marie, bon courage Sylvia.
Tu as son téléphone ?
Téléphone de qui ?
Mais de cette Sylvia là !
Pourquoi veux-tu que j'ai son téléphone ? J'ai jamais entendu parler de cette nana moi !
Tiens, elle rigole.
Maintenant elle pleure.
Ah non, ça c'est pas possible, ça va pas se mettre à pleurer.
Ça devient sérieux, même.
Ah non, bah c'est tout moche. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une pipe.
Alors là, elle pleure pour de bon.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle a peut-être faim.
Qu'est-ce qu'il va faire?
Bah, lui donner à manger, peut-être.
Bah, mais quoi?
Ah, ça. Bon, ben, demande à la pharmacienne.
Ça, c'est une bonne idée.
Vous avez bien sûr reconnu Trois hommes et un couffin de Colin Serrault. Alors de fait, je me suis dit en travaillant cette émission que la première chose à laquelle on pense quand un bébé pleure, c'est qu'il a faim. C'est d'ailleurs ce qu'ils se disent tout de suite, hein, les trois papas putatifs. Bernadette Lavollet, je vous vois hocher la tête.
Oui, c'est la première interprétation qui vient à la bouche de tout le monde, les parents, les soignants, les grands-parents. Or, c'est réduire le nouveau-né à un tube digestif. Or, le nouveau-né n'est absolument pas uniquement un tube digestif. Il a un tube digestif, mais il a surtout un cerveau, une neurologie, une sensorialité et un cerveau qui va s'éveiller, se construire et fabriquer ses circuits neuronaux en fonction de l'environnement qu'on va lui apporter. Or, ce bébé, il a avant tout besoin de chaleur et de sécurité. Et la sécurité, il va la trouver où ? Sur le corps de sa mère essentiellement. Et il a besoin d'avoir un adulte, une figure d'attachement qu'il va fabriquer. Il va la fabriquer avec son petit minois si mignon, ses petits gestes, ses petites caresses. Ça, c'est très agréable. Et l'autre façon d'attirer la présence de sa mère, qui est de sa mère, de sa figure d'attachement, qui est sa mère le plus souvent, de la façon la plus intense, quand l'entourage n'a pas entendu les petits signes moins évidents, son ultime signe pour dire « j'ai besoin de toi, au secours, j'ai absolument besoin de toi pour survivre », eh bien, ça va être les pleurs. Et ça, ça nous dérange énormément, mais c'est un cri d'alarme qui dit « j'ai besoin de toi ». Donc la première chose, c'est d'y répondre. Et on va tâtonner.
D'accord. Alors, pardon.
Oui, heureusement, Isabelle on ne Filosa. Tâtonne plus depuis le fabuleux livre de Priscilla Dunstan, Il pleure, que dit-il ?
Absolument, on va y revenir. Elle a décodé les pleurs des bébés.
Incroyable.
On va en parler très vite. Mais alors, pourquoi les bébés pleurent-ils ? Ben, peut-être parce qu'ils n'écoutent pas assez de musique, allez savoir. On attend vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de l'émission et sur l'appli France Inter. C'était doux, c'était chaud, c'était comme du miel. Shadé, hang on to your love. Impossible de pleurer après ça.
France Inter. Grand bien vous fasse. Marie Sauvion.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle des bébés qui pleurent. On a évoqué les nouveau-nés et on va continuer de s'intéresser aux nouveau-nés et aux nourrissons au moins jusqu'à 3 mois dans un premier temps. Avec nous jusqu'à 11h, la pédiatre Bernadette Lavollet, autrice du livre Les vrais besoins de votre bébé, la psychologue Isabelle Filiosa qui a écrit Au cœur des émotions de l'enfant et la chercheuse Florence Levrero en duplex de Saint-Étienne. Alors Florence Levrero, vous êtes biologiste, spécialiste de la communication des primates et donc, vous nous l'avez dit, vous travaillez aussi sur les bébés humains. L'équipe de l'université de Saint-Étienne à laquelle vous appartenez mène des expériences sur les pleurs des bébés. Est-ce que c'est vrai que chaque pleur est unique ?
Oui, alors en effet, chaque enfant a sa propre voix. Très très tôt, on l'a montré dès l'âge de 2-3 mois, chaque enfant va avoir sa propre hauteur de voix et que les parents vont être capables de reconnaître, pareil, vers l'âge de 2-3 mois, les pères comme les mères. C'est ce qui est important. Une de nos premières études ont montré que les pères étaient aussi bons que les mères à discriminer le pleur de leur enfant parmi plein d'autres. Donc ça, c'était déjà un premier résultat intéressant et que peut-être ce qui expliquait la performance des parents, des pères et des mères, c'était le temps passé avec son enfant. Et ça, c'est un point qui est important. Un papa qui a la possibilité de passer du temps avec son enfant va être aussi bon qu'une maman.
Aussi performant pour reconnaître le pleur de son bébé à l'oreille.
Voilà. Donc, oui.
Alors ces bébés, vous les avez enregistrés dans des circonstances bien particulières, je crois me souvenir pour cette expérience. Oui. C'était un pleur de sortie de bain, c'est bien ça ?
Exactement. On n'a pas provoqué des pleurs.
Jamais. Aucun bébé n'a été torturé pour les besoins de cette étude. Je tiens à le préciser.
Tout à fait. Donc en fait, on a enregistré les bébés au moment où ils étaient soit déshabillés ou rhabillés avant ou après le bain, ou mis dans l'eau. Et donc c'est un pleur qu'on a qualifié d'inconfort. Il y a aucune douleur. C'est juste, il est peut-être pas content d'être manipulé ou de rentrer dans une nouvelle matière, peut-être qu'il y a une température qui lui convient moyennement, on va dire. Donc voilà, c'est un pleur tout à fait d'inconfort. Et on a montré que voilà, chaque enfant avait une signature, on dit une signature vocale individuelle, très très marquée, très tôt. Rien que dans leur voix, en fait.
Et alors, Florence Levrérot, les chercheurs de l'Université de Saint-Étienne, dont vous faites partie, ont fait une découverte bluffante. Les enfants sont victimes dès le berceau de stéréotypes de genre.
Tout à fait. En fait, on s'est intéressé à l'impact des stéréotypes du sexe et du genre sur la perception des pleurs que pouvaient en avoir les adultes. Alors, il faut savoir que d'une part, quand on fait des analyses acoustiques des pleurs, on ne trouve aucune différence avérée entre les pleurs d'une petite fille ou d'un petit garçon vers l'âge de 3 mois. Donc, il n'y a pas de distinction de hauteur de voix. Une petite fille ne pleure pas plus aiguë et un garçon ne pleure pas plus grave. Ça, en tout cas, on n'a pas trouvé cette différence-là. Il y a juste des variations inter-individuelles. Chaque enfant a sa propre voix. Ça c'est sûr. Et pourtant, quand on fait écouter des pleurs de bébés à des jeunes parents, sans hésiter, ils vont juger du sexe du bébé en disant ça c'est un garçon, ça c'est une fille, et voire même de la féminité ou de la masculinité de la voix de l'enfant qu'ils entendent.
Ah oui, ça commence vraiment très très tôt. Parce que les bébés ont 3 mois.
Les bébés ont 3 mois et je répète, quand on étudie la structure acoustique des pleurs, nous on ne trouve aucune différence, en tout cas entre filles et garçons, sur la base de la hauteur de la voix.
Isabelle Filioza, dans votre expérience, parce que vous voyez évidemment énormément de parents et vous les conseillez, vous leur enseignez la parentalité, est-ce que vous avez l'impression qu'on accueille différemment les pleurs des filles et les pleurs des garçons tout petits et que, par exemple, on dira assez facilement, assez vite aux garçons, « pleure pas, t'es un homme ».
Oui, tout à fait. C'est encore présent, c'est très inconscient. Ces stéréotypes sont là dans notre interprétation depuis tout petit. Il suffit qu'un petit garçon, enfin qu'un bébé soit habillé en bleu ou qu'on dise « c'est un garçon » pour que tout de suite, les parents ou même tout le monde autour disent « oh là là, il est fort, regardez comme il exprime ses besoins, etc. » Tandis que si on dit que c'est une petite fille, on dit « ah ben ça c'est une chialeuse, voilà. » Donc, automatiquement, on a ces interprétations parce que nous sommes baignés dans un monde plein de stéréotypes et forcément, ces stéréotypes nous animent énormément. Le problème, c'est que ça s'auto-renforce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit « ça c'est une pleureuse, ça c'est une pleureuse, ça c'est une pleureuse »,
ben, elle va le croire. Voilà. Ben oui, bien sûr.
Et notre regard fait que du coup, ça va modifier notre comportement. Toute notre attitude corporelle, notre voix, tout va être animé par ce stéréotype et du coup va induire un certain nombre de choses.
Alors au téléphone, nous avons Caroline qui nous appelle de Salon de Provence. Caroline, allô ?
Bonjour, oui, allô ?
Bonjour Caroline, merci de votre coup de fil. Donc vous êtes à Salon de Provence et vous avez un bébé qui pleure beaucoup ou vous avez eu un bébé qui pleurait beaucoup ?
Voilà, c'est mon premier enfant qui effectivement a beaucoup pleuré Maintenant, c'est un jeune homme de 14 ans, mais moi, je reste toujours assez choquée de la façon dont s'est passé en fait le retour de la maternité. Moi, j'étais super fatiguée et il pleurait beaucoup. Et mon mari, lui, avait une attitude extrêmement claire par rapport à ça. Bon, il était nourri, il était changé, donc en fait, tous ses besoins étaient comblés. Et puis à un moment donné, quand il continuait à pleurer énormément, ben, on le laissait pleurer dans sa... Enfin, mon mari surtout le laissait pleurer dans sa chambre, me disant « Écoute, t'as besoin de te reposer, donc repose-toi. » et il a même été un moment où, de fatigue et tout ça, le petit continuait à beaucoup pleurer. On a descendu le petit couffin au rez-de-chaussée et on le laissait pleurer. Et nous, enfin moi j'avais besoin de dormir, donc je me rendormais. Mais c'était... Je l'ai plus subi et en même temps je faisais confiance à mon mari, mais je reste toujours malheureuse finalement d'avoir fait ce choix et je regrette de pas l'avoir plus consolé. Enfin, peut-être que j'ai pas su traduire ses pleurs à ce moment-là. Ça me rassure ce qu'a dit la personne tout à l'heure qui a parlé en disant qu'il y avait différentes pleurs et que peut-être que mon mari là avait compris que c'était juste pas un caprice, parce que moi j'estime que si petits peuvent pas faire de caprices, mais j'avais besoin de dormir en même temps. Enfin voilà, je suis...
Mais oui, mais j'entends bien, c'est très difficile pour un couple, hein. On nous le dit avant, et puis en fait on l'écoute pas vraiment. C'est un séisme, l'arrivée d'un premier enfant dans un couple. Bernadette la volait alors.
Oui, alors effectivement, pendant de très nombreuses années, c'était la théorie un petit peu d'autonomie précoce. Or, le nouveau-né humain est celui qui va être dépendant le plus longtemps par rapport même aux autres animaux. Et on disait, laissez pleurer, ce sont des mauvaises habitudes, ce sont des caprices. Or, bien sûr, ce n'est pas tout cela. Et plus un bébé pleure, plus il pleurera. Donc, le premier conseil à donner, c'est effectivement de tout mettre en œuvre pour consoler ce bébé. Alors, ne culpabilisons pas, on a eu ces pressions-là autrefois, mais avançons maintenant différemment dans la compréhension de ce qui se passe. Et disons-nous que ce bébé, quand il pleure, réclame quelque chose, a besoin de nous, et donc répondons à ce besoin comme on peut. Alors, quel besoin exprime-t-il? C'est toute la problématique. Alors, on entend, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de parents, pour les garçons, qui disent « Ah oui, c'est un guerrier !» Ce mot-là, je l'ai entendu
tous les jours. En couche, dans un
couffin. Un petit guerrier, voilà, c'est un petit guerrier. Et on pensait que un enfant qui pleurait beaucoup, ben, il fallait qu'il affronte tout ça et qu'il devienne autonome et qu'il se fabrique. Or, il a surtout besoin effectivement d'une sécurité de base et qu'on apaise ses pleurs. Alors, on va tâtonner, on va chercher, mais c'est comme un adulte ou une personne âgée dépendante qui pleurerait, même si on ne trouve pas tout de suite la bonne réponse, lui dire « Je suis là, je suis ta maman, je suis ton papa, je vais chercher ensemble, on va tout faire pour te consoler. » Et le besoin, un des besoins fondamentaux les plus importants, c'est la présence corporelle, charnelle, sensorielle. Et là, on va tout mettre en œuvre. Donc bien sûr, le corps de la maman, je l'ai dit, mais le papa... Il est là pour aider la maman et pour... on dit en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Ce qui nous manque, c'est le village. Et la maman ne peut pas, 24 heures sur 24, toute seule, assumer ça. Il faut partager, faut l'aider, faut la soutenir,
le
faut la materner.
Le portage du bébé peut tout à fait être fait par le papa, les
grands-parents, les marraines. Il faut vraiment aider la maman. C'est très difficile de supporter un bébé qui pleure et d'être 24 heures sur 24 à répondre à ses besoins. On va tâtonner, chercher. Il faut absolument qu'il y ait un entourage qui partage, mais dans cette même dynamique. Et effectivement, pour être cohérent dans cette dynamique de réponse et de réponse par tous ces petits moyens sensoriels, bercer, chanter, se promener, marcher, etc.
Je remercie Caroline de nous avoir appelé de Salon de Provence et Florence Levrero veut réagir. Depuis Saint-Étienne.
Oui, je voulais juste un petit peu insister sur le fait que c'est vraiment très très culturel le fait de ces fausses croyances aussi qui sont un peu passées, même dans notre milieu occidental, de fait de laisser pleurer les enfants. Je rentre tout juste du Congo, la République démocratique du Congo,
oui.
Où je fais aussi des études sur les pleurs des jeunes enfants et notamment la perception qu'en ont les adultes. Et j'ai tout un questionnaire que je pose aux familles. Et souvent, j'ai des questions qui étonne beaucoup les parents, notamment est-ce que vous laissez un peu pleurer votre enfant ou est-ce que vous vous précipitez de suite pour le prendre dans les bras lorsqu'il pleure, et tous me répondent, enfin ils comprennent à peine même pas ma question en fait, oui. Tellement qu'ils sont étonnés qu'on puisse se poser la question de laisser un bébé pleurer. Et en effet, aussi par expérience, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quantifié nous, mais ça a été montré par d'autres équipes, qu'en effet en Afrique, globalement les jeunes enfants, les bébés pleurent beaucoup moins parce qu'ils sont en contact charnel en permanence, que ce soit avec la mère ou avec d'autres personnes du village, parce qu'en effet, c'est quand même une éducation qui se fait, qui est très collective. Et à peine il y a un gémissement, le bébé va être mis au sein ou la maman va un petit peu sautiller pour le bercer, etc. Donc c'est vrai que nos conditions de vie actuellement en Occident fait qu'on isole beaucoup nos enfants et que cet isolement, en fait, crée certainement du stress, en tout cas de l'insécurité pour les jeunes enfants.
Merci Florence Levrero. Alors, comme tous les lundis, il est l'heure de retrouver Baptiste Beaulieu en duplex de Toulouse pour sa chronique.
France Inter, grand bien vous fasse.
Ouais, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Alors voilà, Marie. Alors voilà, mes consultations, vous savez, ce sont des rencontres. Quelle que soit la dureté de mes semaines, je sais que je peux compter sur eux, les bébés. Ils sont toujours un moment particulier de mes rencontres. Je veux parler des petits pieds qui n'ont encore rien parcouru du monde. Je veux parler des petites mains qui ne savent pas encore ce que frapper veut dire. C'est très important, ça. Les petites bouches qui ne connaissent encore aucune insulte. Est-ce qu'il existe une mécanique plus simple et franche qu'un bébé? Ils ont froid, faim, soif, ils pleurent. Voilà, tout est facile avec eux. Rien n'est payant, rien n'est pensé. Personne, d'ailleurs, ne te fixe comme un bébé peut le faire. Nous devrions tous retrouver de temps en temps le bébé qui demeure en nous. Pour la pureté, la douceur, l'enthousiasme, le bonheur simple, la joie facile, l'absence de cynisme. Nom de Dieu, l'absence de cynisme. Si les bébés sont des promesses, qu'est-ce qu'on en fait, nous, les adultes, de ces promesses quand ils croisent nos routes d'adultes? Comment se fait-il que le monde aille si mal alors que les bébés sont si simples, si purs? Anne Geddes, vous savez, la photographe mondialement célèbre pour avoir immortalisé toute sa vie des nourrissons, avec des tournesols, des fleurs, dans différents paysages. Anne Geddes, elle dit que les bébés qu'elle prend en photo depuis toutes ces années, en général, ils ont moins de 3 semaines parce qu'après, ce n'est plus pareil. Le voile magique de la naissance s'estompe et quelque chose d'immanent s'effiloche lentement et disparaît. Vous savez, quand vous allez consulter votre médecin avec votre bébé, c'est parfois, pas toujours, hein, mais parfois, un petit cadeau que vous lui faites. Je dis ça, j'ai pas encore d'enfant, on en reparlera quand j'aurai été réveillé 5 fois dans la même nuit alors que j'embauche à 8h, mais quand on y pense, les bébés sont en eux-mêmes une petite carte postale envoyée du passé vers notre présent et qui nous rappelle tout homme et toute femme a été innocent. Je crois que c'est important dans ce monde parfois si méchant et souvent si méchant pour rien. Pour rien. Il faudrait dire merci aux bébés parfois. Merci d'être, tout simplement.
Mais merci à vous, Baptiste. Moi aussi, j'adore les bébés. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur le site de France Inter. Nous, on continue de s'interroger sur les pleurs des bébés et on espère vos questions au 01 45 24 7000.
Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison à vouloir faire de la merde. T'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes excuses. C'est mieux que toi. La tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se
Et là t'es où, tu fais quoi, t'écoutes mes textes. J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais. Pourquoi ça m'intéresse. Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein. Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclatée par terre comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille.
C'était Roméo Elvis, malade. Ben, il a le cœur brisé, voilà ce qu'il a, Roméo. J'espère qu'il écoute France Inter pour aller mieux.
Grand bien vous fasse.
Waouh, elle a l'air malheureuse, cette puce. Tu crois pas qu'on devrait faire quelque chose ?
Sur France Inter.
Jusqu'à 11h dans Grand Bien vous fasse, nous nous penchons ce matin avec amour et bienveillance sur les pleurs des bébés avec la psychothérapeute Isabelle Filioza, la pédiatre Bernadette Lavollet et la chercheuse Florence Levrero. J'aimerais vous faire écouter un extrait de la Maison des maternelles, cette remarquable émission de France 5.
Le bébé qui va avoir faim va avoir le réflexe de succion. À ce moment-là, il va mettre sa langue sur le palais et il va produire un son. Ce son, par exemple, celui-là, ça va être le son « nez ». Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire écouter les pleurs. Donc, écoutez-les bien attentivement. Il y aura plusieurs bébés différents. Vous allez voir qu'il y a des petites variations. Alors, il le fait bien, hein. Il le fait très bien.
Ce qui est important là aujourd'hui, c'est que vous entendiez que l'enfant va communiquer avec vous.
Isabelle Filioza, décoder les pleurs des bébés. Alors moi, ça me paraissait trop beau pour être vrai, mais c'est la théorie défendue par l'Australienne Priscilla Dunstan dans le livre « Il pleure, que dit-il ?» paru en poche chez Marabout, et il y a votre nom aussi sur la couverture.
Oui, parce que j'ai déniché ce livre quand je l'ai lu en anglais, ça m'a époustouflée et j'ai mesuré que très très souvent, quand ma propre fille qui a énormément pleuré, quand je me suis souvenue, le son de sa voix me revenait, moi je lui donnais à manger, je lui donnais à téter, et en fait elle ne voulait pas le sein, ce qu'elle voulait, en fait elle avait mal au ventre. On croit seulement, souvent on pense aux besoins apparents, être changé, manger... Mais en fait, il y a toutes sortes d'autres besoins. Et Priscilla Dunstan, elle a une oreille absolue. Et un jour, elle s'est dit, mais si j'utilisais mon don pour comprendre les cris de mon petit bébé, parce qu'elle aussi était totalement démunie face à un bébé qui pleurait énormément. Et donc, elle a gardé la pris un petit carnet et elle a noté la structure du son que faisait son nourrisson lorsqu'il s'exprimait, et ensuite elle mettait en rapport la solution qui finalement marchait, et elle a dégagé comme ça un petit lexique du langage de son bébé. Ensuite, elle s'est promenée dans la rue et elle a réalisé que les autres bébés faisaient pareil. Et donc, elle a commencé à répandre un petit peu ça, et ça a été une révolution parmi toutes ses amies, par toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Du coup, elle a fait des études dessus, ils ont mené avec son père, qui est un psychologue qui travaille dans la recherche aux États-Unis et en Australie, ils ont mené des études sur plusieurs années et dans de multiples pays. Tous les bébés du monde font les mêmes sons. En fait, c'est logique, puisque lorsqu'on a un besoin, on va exprimer ce besoin. Donc là, elle l'a donné dans l'émission des maternelles, l'exemple de nez. Lorsque un bébé a faim, il risque de faire déjà le geste de téter avec sa bouche. Et donc, il met comme ça la langue légèrement. Et s'il crie en même temps parce qu'il a besoin, ça va pousser, ça va faire nez. Et donc, un bébé qui fait nez, on entend le N, c'est probablement il a faim. Si c'est na, il a soif. S'il fait ao, ça veut dire j'ai sommeil. Et donc, le nombre de fois où on essaye de bercer un bébé pour qu'il s'endorme alors qu'il ne fait pas ao, ça ne marche pas. Quand il fait eh, ça veut dire j'ai un rot coincé. Et donc, si le bébé fait eh, 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 c'est pas la peine de bercer, il va pas s'endormir. Il faut d'abord lui faire faire son rot pour lui permettre de se calmer. Lorsqu'il fait aïe, ah, il est surchargé de tension, tout ça. Lorsqu'il fait lélol, c'est qu'il se sent tout seul et qu'il a besoin qu'on le prenne dans les bras. Donc, oui, il y a un lexique du tout petit. C'est un lexique universel et ça change complètement la vie et pour le parent, mais ça change aussi la vie pour l'enfant, bien sûr, parce que imaginez qu'on vous ait compris depuis votre tout premier jour. Au lieu de tâtonner, eh bien, on sait un petit peu mieux. Ça permet aussi qu'on se dispute moins dans le couple, parce qu'au lieu de se dire est-ce qu'on le prend dans les bras ou est-ce qu'on le prend pas, eh bien, on va savoir écouter, on va se mettre ensemble. Ah tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On va chercher à comprendre, à entendre le son du bébé pour pouvoir le décoder. Et du coup, eh bien, on sera tous d'accord sur la réponse à donner.
Alors, exigeons tous hein, des formations sur le langage des bébés, ça aurait changé ma vie. J'ai un témoignage de Camille sur Facebook qui est très intéressant. Elle nous trouve sexiste parce que le papa n'est pas là pour aider la maman. Et elle a bien raison, Camille, le papa doit être là pour s'occuper du bébé avec la maman. Camille, vous avez bien raison. Je tiens toutefois à dire que si on parle beaucoup des mamans, c'est parce que le congé paternité en France fait 11 jours. Il est, autant dire, quasi nul. Et que, mine de rien, les trois premiers mois du bébé se résume souvent à un tête-à-tête mère-enfant. Je le déplore. Je pense que les mères sont très seules. Qu'est-ce que vous en dites, Bernadette Lavollet ? Est-ce que les mères ne sont pas trop seules avec un nouveau-né incompréhensible ?
Oui, absolument. L'importance du père, le plus souvent le père, de quelqu'un qui partage avec la maman les soins au bébé.
Disons l'autre parent, oui.
Voilà, est fondamental. Alors, moi, je parle beaucoup de la mère, surtout les trois premiers mois, parce que la mère, physiologiquement, elle a eu cet enfant pendant 9 mois in utero, et il faudrait lire le livre qui s'appelle « Le quatrième trimestre de la grossesse ». Il se passe quelque chose corporellement de très intense durant les trois premiers mois après l'accouchement, les trois premiers mois du bébé avec sa maman. Il y a l'allaitement, bien sûr, mais il y a tout un fonctionnement hormonal, physique, qui est impliqué encore plus que les papas. Voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup des mamans, mais sans négliger du tout l'importance, et c'est fondamental que cette maman puisse partager ce corps à corps même avec ce bébé et avec quelqu'un d'autre.
Alors, le pleur du bébé, le cri du bébé est un réflexe, on est bien d'accord hein, dans les premières semaines.
Totalement, c'est un réflexe. Il n'y a pas une intention.
Il n'y a pas de volonté du bébé d'être un tyran, par exemple. Non, je le dis parce qu'on peut se poser la
merci
question.
Merci Marie de le souligner, parce que c'est vrai, c'est purement réflexe, c'est automatique, c'est une réponse parce qu'il y a un besoin, le corps se met en mouvement. C'est automatique, il ne peut pas à cet âge-là, si précoce, avoir quelque intention que ce soit. Non, il ne peut pas chercher à vous manipuler.
La volonté de discutailler, il y a des bébés de 6 mois, on s'en souvient, qui n'ont pas envie qu'on les habille, par exemple, alors qu'ils râlent, qu'ils pleurent dans ces circonstances. Il paraît que j'ai fait ma plus grosse colère à 6 mois parce qu'on voulait pas me donner la deuxième moitié d'une pêche. Mais avant quoi ? 3 mois, 4 mois, 5 mois, on est vraiment dans l'ordre du besoin criant.
Tout à fait. Et l'histoire de la moitié de pêche, c'est une interprétation du parent. Lui ne voit que ça. Il voit, je ne lui donne pas la moitié de pêche, mais si ça se trouve, c'est toute une autre histoire qui se déroulait dans votre cerveau à vous. Qu'est-ce qui s'était passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'on était dans un milieu particulièrement stressant ? Qu'est-ce qui se passait ? On a besoin de regarder un petit peu plus tout autour. Les parents, on a beaucoup trop tendance à interpréter. Et on interprète souvent, malheureusement, en fonction de notre structure culturelle. Et donc, dans cette idée que l'enfant cherche à nous manipuler, que l'enfant fait des crises lorsque l'enfant va, ne supporte pas la frustration, etc. Et du coup, on plaque ces interprétations.
En fait, vous écrivez dans, vous écrivez dans Au cœur des émotions de l'enfant que l'enfant est prisonnier du moment présent et de son émotion présente. Ça, c'est très intéressant parce que il ne peut pas relativiser. Il ne peut pas se dire, oui, comme tous les jours, je sais bien, j'aurai mon biberon ou ma tétée dans 10 minutes, il faut que je patiente, etc. Il n'a pas cette pensée-là, le bébé.
Tout à fait. Toute la zone préfrontale n'est pas encore fonctionnelle et du coup, il ne peut pas anticiper, il ne peut pas délayer. C'est grâce au maternage, grâce à l'attention que le père et la mère vont fournir à l'enfant, que les personnes qui vont s'occuper de l'enfant vont lui fournir, que petit à petit, il va pouvoir construire cette capacité à penser, à être un petit peu plus, à délayer l'espace et à pouvoir se repérer davantage et à pouvoir anticiper petit à petit. Et ça, seulement si il est pas stressé, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va laisser un enfant crier, laisser un enfant pleurer, ou qu'on va même froncer les sourcils ou se fâcher contre lui, on va exciter l'amygdale et donc on va empêcher le cerveau préfrontal de se construire. Tandis que chaque fois que on écoute le besoin d'un enfant, qu'on nomme le besoin, qu'on va avec, eh bien, on l'aide à tisser les liens entre les zones. Je calme mon cerveau. Et ça se passe bien, t'inquiète pas, voilà. Et les zones, ah, il y a un besoin.
Marie sur Facebook nous dit « Pour ma part, ma vie a changé quand j'ai compris que ne pas laisser son bébé pleurer ne signifiait pas combattre les pleurs à tout prix. Mon fils d'un mois pleurait 45 minutes chaque soir, on reviendra peut-être sur les pleurs du soir qui sont souvent les plus terribles. Il était inconsolable et sans raison compréhensible. Je restais alors avec lui, l'accompagnant dans ses pleurs, sans chercher à le faire taire. C'est parfois la seule chose à faire. » Il me paraît formidable ce témoignage de Marie sur Facebook.
Oui.
Bernadette Lavollet.
Oui, et elle a merveilleusement décrit le fait que le bébé très jeune et nouveau-né a besoin de présence d'un adulte et une présence qui le sécurise. Son besoin de sécurité, il va osciller le bébé entre ce besoin de forger cette sécurité de base avec un adulte référent qu'on appelle la figure d'attachement, et plus il y a cette figure d'attachement qui répond à son besoin de sécurité et qui apaise son stress et qui ne déclenche pas de stress et qui lui permet ce bien-être fondamental de base, et plus il va pouvoir explorer le monde et s'y adapter et l'explorer. Et en fait, il se met à pleurer et à appeler l'adulte quand, au cours de cette exploration, il est un petit peu perdu dans ce nouveau monde et où il va appeler sa figure d'attachement pour dire « là, j'ai besoin de toi ». Et c'est ce va-et-vient entre ce besoin de sécurité de base et d'attachement qu'il va créer et ce besoin d'exploration qui va, et la réponse que l'adulte va apporter à ça, et la figure d'attachement principale et les figures d'attachement secondaires, qui vont conditionner justement ce va-et-vient entre sécurité et exploration du monde et autonomie qu'il aura à minima peut-être vers 6 mois. Voilà.
Nous avons Claire au téléphone qui nous appelle de La Réunion. Bonjour Claire.
Bonjour à tout le monde. Alors je faisais part de mon expérience en effet. Pour ma deuxième grossesse, nous avons à 7 mois de grossesse déménagé à 18 kilomètres. Donc alors, à l'île de La Réunion.
Oui. Et depuis Paris, on vous envie déjà. Allez-y, continuez, pardon.
Non, je vous en prie. Du coup, c'était une grossesse qui s'est passée très très bien, sans aucun problème médical. Simplement, l'arrivée sur l'île a engendré beaucoup de stress, d'installation, de nouvel environnement, d'éloignement familial également. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré sur mes dernières semaines, vraiment beaucoup, beaucoup. Mmh. Donc je parlais beaucoup à mon bébé en lui disant que ce n'était pas pour lui, ce n'était pas sa faute, etc. Et donc, quand il est né, ce petit être faisait partie de ces bébés qui pleuraient énormément, de façon ininterrompue. Mmh. Et malgré le fait qu'on l'a eu beaucoup en peau à peau, en portage, une grande partie de la journée, etc., on s'est quand même posé la question de est-ce qu'en fait, cet enfant n'avait pas... Enfin, il a vécu mon stress, c'est certain, in utero. Mmh. Est-ce qu'il n'avait pas besoin aussi de tout ressortir, ce qu'il avait accumulé dans mon ventre, toutes ces tensions qu'il a pu sentir sur ces dernières semaines de vie in utero, est-ce qu'il n'avait pas besoin de les sortir, de les évacuer?
Merci Claire pour cette question. Je me tourne vers Isabelle Filiosa, psychothérapeute. Alors, stress de la maman in utero...
Le stress de la maman in utero impacte le fœtus, oui, et bien sûr que ça va générer quelque chose, en fait, pas en termes d'accumulation de tension, mais en termes de modification intestinale, du microbiote intestinal. Alors, c'est une alchimie extrêmement complexe entre le stress de la mère et même le stress de la mère, même après la naissance. Mais on a découvert que les enfants qui pleurent énormément ont l'une au moins de 8 bactéries. Donc, quand un bébé pleure beaucoup, 45 minutes tous les soirs, etc., on peut faire une analyse de sel. Aujourd'hui, on sait détecter les bactéries qui vont déclencher des maux de ventre tels que l'enfant pleure beaucoup. Si on enlève ces bactéries, soit par des antibiotiques, soit des probiotiques, en fait, il faut vraiment que ce soit adapté à la bactérie précise qui est dans les intestins de cet enfant. Du coup, eh bien, il n'y a plus de pleurs. Quand un bébé pleure beaucoup, non, ça n'est pas parce qu'il cherche à évacuer du stress. Un bébé n'a pas la capacité d'évacuer son stress en pleurant. Il va juste se stresser davantage. Plus il pleure, plus il est stressé.
En finir avec les pleurs des bébés, à la programmation de cette émission, Laura Laplot, attachée de production Alexia Lacour, merci aux stagiaires Nicolas Bove et Émilie Mostefaille, à la réalisation ce matin David Leprince, merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale et à la technique Julien Dumont et Maxime Ingrand. On se retrouve tout de suite.
Do now that you're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone. And what will you do now you're all alone? Who's gonna keep you warm? Now that you're gone, now that you're gone.
C'était The Raconteurs, je ne sais même pas comment le prononcer, avec Now That You're Gone. Mais nous, on part pas tout de suite, attention.
Marie Sauvion, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Grand bien vous fasse, dernière partie. On s'échine toujours à comprendre et sécher les larmes des bébés avec la pédiatre Bernadette Lavollet, la psychothérapeute Isabelle Filiosa et la chercheuse Florence Levrero. On avance un petit peu en âge, là. On a laissé passer les premiers jours et on arrive au premier mois avec un coup de fil d'Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est un bébé qu'on entend à côté de vous?
Oui, en effet. Je me suis dit que j'allais pas la faire pleurer. C'est l'heure de son biberon, pardon. Ça se goupille, mais ça va. Elle le termine, donc tout va très bien.
Bon, génial. Vous vouliez poser une question, Antoine?
C'était pas vraiment une question, c'était plutôt pour apporter un témoignage. Merci beaucoup pour votre émission, qui est très intéressante. C'était un témoignage sur un travail qui a été développé par une psychologue qui s'appelle Bernadette Lemoine,
ouais,
sur l'angoisse de séparation, ce qu'on appelle l'angoisse de séparation, qui évidemment peut être source de beaucoup de pleurs pour les enfants dès la naissance, dès le plus jeune âge, et qu'on a connu avec notre petite fille, qui elle était un peu plus grande déjà, qui avait quelques mois. Pardon. Attendez, je la laisse.
Ne négligez pas cet enfant, nous vous surveillons, Antoine.
Non. Et donc ma petite fille, qui à l'époque avait une toute petite année, donc c'était plus vraiment un bébé, mais pas encore un enfant qui était capable d'exprimer toutes ses émotions.
Ouais.
Et qui a dû subir une opération très bénigne, très simple, sur laquelle nous l'avons beaucoup informée, on l'a beaucoup prévenue qu'elle allait être opérée, qu'on allait l'endormir pendant quelques minutes. C'était vraiment une opération très simple, parce qu'on ne pouvait pas l'accompagner au bloc opératoire.
Mm-hmm.
Et malgré tout ce travail de prévention qu'on avait vraiment préparé en amont, en lisant des livres et tout ça, dans les jours qui ont suivi l'opération, on était absolument incapable de la laisser toute seule plus d'un quart d'heure, 20 minutes. C'était... dès qu'on sortait de sa chambre le soir, la nuit, la journée, dès qu'on la laissait, c'était des hurlements à se taper la tête sur les murs, qu'on n'arrivait absolument pas à calmer. C'est-à-dire qu'il fallait s'endormir à côté d'elle, lui tenir la main. Enfin, c'était vraiment des situations un petit peu extrêmes. Et nous avons rencontré d'abord une élève de Bernadette Lemoine, qui est la psychologue qui a développé ces théories, et qui a résolu le sujet avec quelques mots, simplement, en une ou deux séances, en parlant avec notre fille, en la calmant, en trouvant les mots pour la rassurer. Et puis derrière, nous nous sommes formés, nous, comme parents, avec Bernadette Lemoine elle-même et puis avec d'autres parents, pour comprendre cette angoisse de séparation pour les enfants et tout ce qu'elle crée au quotidien dans leur vie, sur toutes leurs premières années, évidemment pour les bébés, et puis aussi pendant, disons, les 10, 15 premières années, même jusqu'à l'adolescence.
D'accord, merci Antoine. Une réaction de nos invités, Isabelle Filioza.
Eh bien oui, tout à fait. Nous ne mesurons pas à quel point l'attachement est important et cette petite fille qui lui est arrivée des bricoles quand ses parents n'étaient pas là, elle s'est fait opérer quand même. On peut toujours lui avoir raconté tout ce qui va se passer, etc. Un tout petit, il a vraiment besoin de la sécurité qui est donnée par le lien. Et oui, c'est important de pouvoir réparer quand même. Après, on peut toujours réparer, c'est ce que Antoine nous souligne là.
Alors, on va résumer très très brièvement quelques phrases clés, parce que l'émission est quasiment finie. On ne laisse pas pleurer les bébés.
C'est sûr.
Les bébés ne sont pas capricieux, ne sont pas des tyrans.
C'est certain.
Un cri est un appel au secours. Vous me dites quand j'ai tort, hein. Vous n'hésitez pas à me corriger.
Pas forcément un appel au secours. En tout cas, c'est quand même dommage. C'est un appel. Et c'est dommage d'attendre que ce soit un appel au secours. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de laisser un enfant aller jusque dans la détresse. Intervenant dès ce que Priscilla Dunstan appelle le pré-cri. C'est-à-dire, il commence à faire, ah, oui, hop, on intervient. Il est en train de dire quelque chose. Sinon, pourquoi est-ce qu'il pleure tellement? C'est parce que comme on n'écoute pas, on ne répond pas, on se dit, bah, il faut attendre un petit peu, tata. Du coup, il se met à hurler, et c'est, alors, tu m'entends pas?
Les pleurs appellent les pleurs. Je vous ai bien entendu. On y revient, on refera une émission sur les pleurs, c'est passionnant. Grand bien vous fasse, c'est déjà fini. Merci au docteur Bernadette Lavolet. On peut lire votre livre, Les vrais besoins de votre bébé, aux éditions des Arènes. Merci à Isabelle Filioza, votre dernier ouvrage au cœur des émotions de l'enfant est disponible en poche chez Marabout. Merci à Florence Levrero de l'Université de Saint-Etienne et bonne chance pour la suite de vos recherches. La bonne nouvelle, c'est qu'il est l'heure de retrouver Nagui et sa bande originale. Demain, à 10h, Ali Rebéi sera de retour aux commandes de Grand Bien Vous Fasse et accueillera toutes vos questions sur l'hypertension. Il recevra le chirurgien Jean-Noël Fabiani, le cardiologue Fabien Guèze et la journaliste Alexandra Combes.